Cette semaine, c'est la situation en Ukraine et plus généralement les questions de défense et de sécurité nationale qui ont dominé les débats politiques en Australie. C'est Scott Morrison qui a ouvert le bal lundi dernier en détaillant sa vision concernant la politique étrangère devant le Lowy Institute. Il y a employé des mots très forts pour décrire la Russie et la Chine qu'il a rassemblés dans un ensemble qui n'est pas sans rappeler l'axe du mal défini 20 ans plus tôt par George W. Bush.
A new arc of autocracy is instinctively aligning to challenge them and reset the world order in their own image.
Au cours de cette même intervention, il est également revenu sur l'alliance AUKUS formée avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, et il a annoncé notamment la construction future d'une nouvelle base de sous-marins.
Today, I can announce that the government has decided to establish a future submarine base on the east coast of Australia as well, to support basing and disposition of the future nuclear-powered submarines. Establishing a second submarine base on our east coast will enhance our strategic deterrent capability with significant advantages in operational, training, personnel and industrial terms.
Sauf qu'en fait, pour l'instant, l'emplacement précis de cette future base, qui viendra donc s'ajouter à celle déjà présente à proximité de Perth, n'est pas encore connu.
Three preferred locations on the east coast have now been identified. They are Brisbane, Newcastle and Port Kembla. Now, all three locations meet many of the criteria that the government agreed would need to be met to support our strategic objectives. Our government has authorised Defence to immediately begin engaging with the New South Wales and Queensland governments, and I was in contact with both of the premiers last night. This initial work is expected to be completed by the end of 2023 and will ultimately form part and be informed by the work underway right now by the Nuclear Submarine Task Force.
Ce que Scott Morrison a annoncé, c'est donc seulement le lancement d'une étude concernant la construction de cette nouvelle base, étude qui ne sera rendue qu'à la fin 2023. Une annonce donc sans beaucoup de substance, c'est ce que n'ont pas manqué de dénoncer plusieurs membres de l'opposition, pour qui l'objectif de Scott Morrison, avec cette déclaration, c'était simplement de faire un coup médiatique quelques semaines avant les élections, mais aussi de détourner l'attention des médias, au moins pendant quelques heures, des inondations et de la réponse très critiquée apportée par le gouvernement aux personnes sinistrées. En cause notamment la lenteur du déploiement des forces armées dans les secteurs les plus touchés, comme à Lismore ou à Ballina, en Nouvelle-Galles du Sud. Celui qui a dû s'en expliquer, c'est le ministre de la Défense, Peter Dutton. Interrogé cette semaine dans l'émission Sunrise, le moins qu'on puisse dire, c'est que ses explications n'ont pas convaincu le présentateur, David Koch.
If you're talking about the clean-up phase and the reconstruction phase, that can't start until they can get people on the ground, that they can have, you know, waters receding, and then
they've receded in Lismore.
Well, they are.
They receded in Lismore, but not enough. God help us if we were going to war. We wouldn't stand a chance if it took this long to get ourselves organized. What's going on?
L'attaque est brutale, mais Koshy, comme on le surnomme, n'en est pas resté là. Il est allé jusqu'à demander au ministre s'il n'avait pas honte que des citoyens ordinaires en fassent plus pour venir en aide aux sinistrés que les forces armées.
Are you embarrassed that ordinary Australians are having to do so much work in this? Ordinary Australians are having to get themselves to remote areas in their dinghies, wading through floodwaters to help people, to take them food and to make sure they're all right.
No, Koshy, I mean, that's the Australian spirit. That's what you and I would do for our neighbours. And
absolutely.
It's what
and
people do
we
in
want
extremis.
The ADF to do that for
so,
us as
no,
well.
So, I'm not embarrassed by that.
Sorti d'isolation après avoir contracté le Covid, Scott Morrison s'est lui rendu à Lismore mercredi pour annoncer l'état d'urgence nationale. Mais il a refusé en revanche de rencontrer la population qui sur place avait de nombreux reproches à lui faire. C'est peut-être pourquoi le lendemain à Brisbane, plutôt que de parler des inondations, il a évoqué une fois de plus l'armée et son souhait d'en augmenter significativement les effectifs.
The biggest increase in the size of our defence forces in peacetime in Australian history. We will boost our defence forces by some 18,500, which will take our defence forces to 80,000 in number. We're building and continue to build a future defence force because their first job, let's not forget, is to defend Australia.
Le même jour, quelques heures plus tard, c'est le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui dévoilait à son tour sa vision concernant les relations internationales et la défense devant le Lowy Institute. Ce qu'on peut en retenir, c'est que sur ces sujets, le Parti travailliste est peu ou prou sur la même ligne que la coalition, qu'il s'agisse par exemple de la relation de l'Australie avec la Chine, de l'augmentation des capacités militaires ou encore du pacte AUKUS et du choix de s'équiper de sous-marins nucléaires. En revanche, sur cette dernière question, il a déploré la façon dont la rupture du contrat avec la France s'est déroulée.
A defining characteristic of this Liberal National Government is an enduring focus on announcements, but not on the delivery of them. Billions of dollars wasted on the French contract. We now have no contract for any submarine and a looming submarine-shaped capability gap. And it leaves the next government with another repair job, healing the wounds inflicted on the Australia-French relationship.
L'autre différence majeure entre Scott Morrison et Anthony Albanese sur ces questions, c'est son positionnement sur le changement climatique. Il estime que le manque de volontarisme de l'Australie en la matière a nui ces dernières années à l'image du pays sur la scène internationale.
Instead of playing a positive role in the global effort to combat climate change, the truth is that Australia is seen as one of the recalcitrant nations holding action back. This undermines our status and our presence in the region.
Et au-delà de l'impact sur les relations avec d'autres pays qui attendent de l'Australie qu'elle fasse plus d'efforts sur le sujet, Anthony Albanese considère que le changement climatique, c'est aussi un enjeu de sécurité nationale.
Australia's national security is bound up in so much more than our defence capability, critical as it is. National security also means cyber security, energy security, economic security, and of course, environmental security. Something that we're seeing right now in northern New South Wales, here in Sydney, and in Queensland. A threat with serious direct implications for the security and well-being of Australians and our region. Without meaningful action, climate change will create major population displacement. It will drive a surge in refugees and create new grounds for conflict over ever scarcer clean water and fertile land. Too many Australians have first-hand knowledge of the brutality of bushfires, drought and flood. Climate change is here now. Coming to government, I will ask the Director General of National Intelligence and the Secretary of the Defence Department to undertake a risk assessment of the implications of climate change for national security.
Pour revenir à Scott Morrison, on peut se demander pourquoi il a estimé nécessaire d'annoncer cette semaine la construction future d'une base de sous-marins dont on ne connaîtra l'emplacement exact qu'à la fin 2023. Les mauvaises langues diront que c'était pour regagner quelques points dans les sondages, puisque traditionnellement, les conservateurs sont jugés plus crédibles sur les questions de défense et de sécurité nationale. Et pourtant, ce n'est pas ce que révèle un sondage réalisé cette semaine par le Guardian. À la question « Qui est le mieux à même de gérer la guerre entre la Russie et l'Ukraine ?», les répondants sont aussi nombreux à désigner les travaillistes que la coalition. Ils recueillent chacun 24% des votes. C'est la première fois que les travaillistes sont à égalité avec la coalition sur ce type de thématique. Alors on ne vous dira pas ici qui d'Anthony Albanese ou de Scott Morrison ferait un meilleur chef de guerre, ce qu'on espère en tout cas, c'est que quel que soit le vainqueur de la prochaine élection fédérale, il saura nous préserver d'une entrée en guerre.